Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Jean-Baptiste Moulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur du CCA, le Centre de compétences en apiculture de la Vallée de Bagne. On est à Volège, ce centre qui est au bord de la route. Plein de gens l'ont vu, un grand bâtiment de bois qui a tout juste un an. Ça fait une année qu'il a été inauguré, on va en parler. On va parler des abeilles, on va parler de leur destin, de notre destin avec la fragilité des abeilles. D'habitude, je propose à mes invités de choisir un lieu où on se rencontre. Là, ça tombait sous le sens. On est dans ce centre qui a tout juste une année et les activités sont... Voilà, il y a une grande activité, ça marche, ça commence à marcher.
Alors oui, on a inauguré, ça fait tout juste une année. Et oui, ça part très fort. On a énormément de gens qui s'intéressent à nos projets parce qu'il y en a plusieurs. Et puis... On n'a pas seulement de groupes qui viennent, qui nous visitent, des projets de recherche qui démarrent, des projets un peu dans tous les sens.
Alors on va parler un petit peu de tout ce que recoupe cette initiative du centre, parce que en effet c'est très riche, ça va de l'apithérapie à la recherche, en effet vous venez de le dire, la communication externe aussi, montrer ce que c'est que ce monde des abeilles aux gens, donc avoir des visites, etc. On y reviendra. Vous d'abord, qu'est-ce qui vous amène dans le monde de la ruche, dans le monde de la abeille?
Alors ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que j'ai des abeilles. Je viens d'une famille où en fait par tradition on avait des abeilles. Mes grands-pères étaient apiculteurs, mes oncles étaient apiculteurs, mais mon papa pas du tout. Et quand j'étais enfant, quand j'étais tout petit, je suivais mes cousins qui devaient aller au rucher. Pour eux c'était un peu la punition. Qui devaient aller au rucher avec leur oncle, et je les accompagnais et ça me fascinait. Et à ce moment-là, il y avait des races d'abeilles, on avait des croisements qui avaient été faits avec Apis ligustica, qui est l'abeille italienne. Donc on avait des souches d'abeilles qui étaient extrêmement agressives. On se faisait piquer dès qu'on arrivait au rucher. Mais voilà, malgré les piqûres, ça me fascinait, je me cachais sous mon voile et puis il fallait absolument que je voie les abeilles sur la planche de vol.
Bon, c'est intéressant parce que je me rends compte en venant vous voir qu'il y a plein de gens qui ont quelques ruches, quoi. On a le Taoulé-Vache, Taoulé-Vigne, on pourrait avoir Taoulé-Ruche, quoi. C'est très... on est ici dans la vallée d'Entremont où il y a une société active qui l'était avant ce centre de compétences, mais dans tout le Valais, probablement au-delà, c'est très actif encore dans les familles.
Oui, alors l'apiculture, elle reste très active. Sur le Valais, on a plus ou moins 800 apiculteurs qui sont actifs. En Valais, dans la région, on vit peut-être depuis quelques années un retour à cette activité. Donc on a une augmentation du nombre de ruches, mais on est relativement stable sur le nombre d'apiculteurs.
Pourquoi on a décidé ici dans cette vallée d'Entremont, il y avait une société, il y a toujours d'ailleurs une société des apiculteurs, dont j'imagine la majorité sont amateurs justement, ces familles dont on vient de parler. Pourquoi et comment est arrivée cette idée de faire un centre de compétences sérieux, avec ce mot compétences justement, qui dit bien ce qu'il veut dire?
Ce projet, il est arrivé un petit peu par hasard, dans le sens où l'Entremont initiait son plan de développement régional. À ce moment-là, Michel était à la présidence de la société d'apiculture, donc Michel Rosis. Moi, j'étais à la vice-présidence. Et puis, on a fait notre assemblée générale à Orcières. Et on a été accueillis par Menrad Copet, qui initiait le plan de développement régional. Et puis, à l'apéro, parce qu'on est en Valais, et puis beaucoup de choses se passent à l'apéro. Il nous lance, mais tiens, vous, les apiculteurs, vous êtes un petit peu dans l'agriculture, vous pourriez faire un projet. Voilà. Et de cette discussion est née l'idée de faire un centre de compétences en apiculture.
Il y a deux aspects. Il y a un aspect où les apiculteurs trouvent dans ce centre de compétences un endroit où travailler. On y reviendra sans doute, mais avec les normes d'hygiène, etc. Requises. Et on aurait pu se contenter de ça, en fait, faire un centre, un petit bâtiment pour l'usage des apiculteurs. Mais vous allez plus loin, c'est-à-dire vous dites, le monde des abeilles est en péril, à notre échelon local, il faut qu'on contribue à la recherche, il faut qu'on contribue à la défense des abeilles.
Alors, absolument. Et au début, c'était un peu notre idée. C'était de faire quelque chose qui vienne un petit peu en appui des apiculteurs de la région. Voilà, quelque chose d'extrêmement pratique. Et puis, le projet, il a vite fait boule de neige. Donc, on a été un peu sollicité de toutes les parts. On a dans le projet un moment qui est dans la réflexion très intéressant où, en fait, sur un projet comme ça, à un moment donné, il faut être collégial, il faut être, il faut écouter la base. Et puis, on avait déjà l'idée de nos dicasters. Et on a fait des petits groupes de travail avec nos apiculteurs pour réfléchir à ces différents dicasters. Et puis on s'est aperçu, un, qu'on était dans la cible, qu'effectivement on répondait à une attente, en tout cas on répondait à une vision, parce que c'est très important aussi d'avoir une vision dans un tel projet. Et puis les idées se sont regroupées. Comme on a un petit peu une âme d'entrepreneur, on a foncé, on s'est battu pour que le projet se fasse et le projet a pu se réaliser.
Alors les dicasters, on y reviendra dans la deuxième partie, on reviendra sur le fonctionnement de ce centre. Il y a l'agrotourisme, ça veut dire justement dire aux gens qui passent, voilà la réalité du monde des abeilles. Il y a l'apiculture évidemment, le miel, la formation de gens qui vont se lancer dans l'apiculture, la recherche et puis l'apithérapie, on y reviendra. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces abeilles, parce que ça fait partie de ces animaux dont on sait qu'ils vont pas bien. Il y a presque un parallèle à faire avec l'ours blanc sur la banquise. On voit une image, on en est très frappé et puis on fait pas grand chose. Les abeilles aussi, on entend très périodiquement parler de la disparition des abeilles, d'une hécatombe chaque hiver dans les ruches, et puis ça passe. Où est-ce qu'elles en sont, les abeilles, aujourd'hui?
Ah, c'est vrai que les abeilles, elles sont sous pression. Elles sont sous une pression énorme. On le sait, on en est tous conscients aujourd'hui que notre environnement, de façon générale, il est en train de changer, de se modifier. Les causes, elles sont multiples, elles sont encore difficiles à cerner. Mais on peut simplement s'arrêter sur le constat que oui, on perd beaucoup de ruches et on en perd beaucoup trop. C'est dur pour les apiculteurs.
Des chiffres de 15% à peu près par année.
Oui, même plus, 20. On est plus, voire sur des situations aiguës, on peut perdre jusqu'à 40-50% du rucher. Ici, j'ai des apiculteurs cette année qui sont venus me dire qu'ils avaient perdu la totalité de leur rucher. Alors c'est une pression et c'est des moments qui sont très durs pour les apiculteurs parce que déjà, il ne faut pas perdre la motivation. Et il faut remonter son rucher. Et voilà. Pour les abeilles domestiques, pour Apis mellifera avec laquelle on travaille, c'est déjà une bonne nouvelle parce que oui, on les perd, mais par bonheur, on a des apiculteurs qui restent motivés et continuent de remonter leur rucher. Mmh. Et ça, c'est important. Par contre, là où c'est inquiétant, c'est que si on perd nos ruches, si on perd les abeilles dans nos environnements, ça veut dire que notre environnement va vraiment pas bien.
Oui, alors ça, il y a la fameuse phrase qu'on attribue à Einstein, qui n'est pas d'Einstein, qui est de dire si les abeilles disparaissent, les humains en ont pour 4 ans, je crois. Hein. C'est une phrase qui est dans l'air comme ça. Il y a les abeilles sauvages aussi, il y en a encore ?
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Il y a des abeilles sauvages. Par chance, c'est peut-être là qu'Einstein, ou en tout cas
la fameuse
phrase qui est allouée à Einstein se trompe un petit peu, parce qu'heureusement, par chance, on a quand même une bonne quantité d'abeilles sauvages. On les connaît encore très peu.
Mais elles ont perdu un peu leur habitat, j'imagine, en Europe, avec l'agriculture intensive, avec les pesticides, avec la disparition des espaces.
Oui, alors elles ont perdu leur habitat, certes, mais surtout elles ont perdu leurs ressources. Donc j'aime dire aux gens, je fais partie d'une génération qui, quand on additionne l'urbanisation, l'intensification de notre agriculture, les problèmes liés au changement climatique, je suis forestier, donc peut-être aussi les modifications dans la gestion forestière, on fait partie de la première génération d'humains qui ont vu leur environnement complètement changer de notre vivant. Donc c'est sûr que notre monde du vivant en dehors des hommes, il subit tout ça et ils doivent aussi être résurgents. Et ce qui se passe, c'est que toutes les espèces n'arrivent pas à être résurgentes.
Mmh. On a cette image, on doit avoir plus ou moins le même âge, vous et moi, de quand on était gamin et qu'on faisait 100 km en voiture, c'était un tapis d'insectes sur le pare-brise, sur la plaque, etc., sur la calandre. C'est plus du tout le cas aujourd'hui et c'est pas une bonne nouvelle.
Et c'est plus le cas. Ouais. Par contre, je me déplace souvent en Italie parce que voilà, il y a un petit coin de pays en Italie où je vais très très souvent. Et ben, je m'aperçois que c'est un monde forestier, c'est un monde qui a été abandonné par l'homme et par l'agriculture. Et quand je roule à très faible vitesse avec mon Duster dans ces régions, eh bien ma voiture est crépie d'insectes. Donc
tout n'est pas perdu, ça peut revenir, si on laisse un peu la nature reprendre.
Alors là, j'en ai une certitude, oui. Bon. Notre écosystème, il est fort, il est puissant et on arrivera à reconstituer les choses.
On va essayer de lister un petit peu, vous avez dit c'est multifactoriel, hein, les dangers qui guettent, enfin qui fragilisent les abeilles aujourd'hui et par extension un petit peu tout le monde des insectes. On a parlé des pesticides, vous avez évoqué le changement climatique, il y a aussi l'arrivée de nouveaux prédateurs avec le changement climatique. Hein. C'est le cas du fameux frelon asiatique qui est une star médiatique. On en parle tout le temps.
Oui, bon. Je ne sais pas si c'est le changement climatique qui fait que le frelon asiatique arrive chez nous. Je pense que c'est plutôt la mondialisation et puis notre façon de transporter les choses dans chaque coin de la planète. Voilà, mais oui, effectivement, il y a ça qui se rajoute à...
Qu'est-ce qu'il leur fait aux abeilles ?
Alors, le frelon asiatique, c'est un prédateur. C'est un prédateur qui va consommer pas uniquement des abeilles. Il va consommer des insectes. Il vit un peu comme vivait l'abeille primitive, c'est-à-dire qu'il va chasser pour se procurer des protéines et puis il va chercher des ressources en sucre pour pouvoir avoir de l'énergie pour voler.
On va reprendre dans la deuxième partie de cette émission sur le frelon asiatique, puisqu'il y a toute une campagne en ce moment. Je vais vous demander votre avis là-dessus. À tout de suite.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Jean-Baptiste Moulin, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On avait terminé la première sur le frelon asiatique, hein, et ce prédateur d'insectes, plus gros, plus méchant. Et alors, je le disais, hein, c'est un méchant de cinéma pour les médias, on en parle beaucoup. Et tous les promeneurs, comme moi, en ce moment, peuvent voir des bouteilles renversées, accrochées aux arbres avec un liquide à l'intérieur et une petite étiquette. On est en train de lutter contre le frelon asiatique. Ça marche, ça ? C'est utile ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres bestioles qui peuvent entrer dans ces bouteilles, non ?
Oui, effectivement. Alors là, c'est un avis qui est très personnel. Hein. J'ai une formation forestière, donc comme forestier, j'ai l'habitude de voir intervenir dans des milieux naturels avec des méthodes douces, puisque la chimie est interdite en forêt. Avec le frelon asiatique, aujourd'hui, on est dans une phase d'invasion, c'est-à-dire qu'il arrive. Et c'est clair que
il arrive, ça veut dire que ce qu'on voit maintenant, c'est les éclaireurs, mais qu'il y en aura plus, c'est ça ?
Voilà, c'est les premiers nids qui arrivent, qui remontent gentiment la vallée du Rhône. Voilà, on n'est pas les seuls, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de régions qui sont exactement dans la même situation. Et puis, aujourd'hui, il s'agit un petit peu de freiner cette progression. Alors oui, ils ont posé 1700 pièges sur le Chablais. C'est un effort colossal qui est conduit par les apiculteurs, entre autres. C'est bien. Moi, mon souci, c'est plus de dire, mais qu'est-ce qui va se passer quand il nous aura passé par-dessus l'épaule ? Parce qu'un jour, il va nous passer par-dessous l'épaule et il va s'installer dans le canton. Et à ce moment-là, il faudra réussir à passer il faudra dépasser les campagnes de lutte primaires qui consistent à le freiner pour arriver à trouver des techniques de gestion. Il faudra
que... Voilà, ce que vous dites, c'est qu'en gros, toutes ces bouteilles dans le Chablais, elles risquent de faire arriver le frelon précocement dans d'autres régions du Valais. Ils vont partir, quoi.
Non. Alors, c'est pas la technique qui est utilisée qui risque de faire passer le frelon. C'est le frelon lui-même qui a une capacité de reproduction, qui est en pleine production, en pleine extension et puis il est très difficile, on le voit dans les autres régions où il est arrivé, c'est très très difficile de le contenir.
Mais ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec maintenant, c'est ça?
Alors je pense qu'il faut qu'on fasse justement deux choses, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire de freiner son arrivée, et puis par contre réfléchir à comment est-ce qu'on arrivera à le gérer quand il sera présent.
Bon, est-ce que c'est pas un méchant bien pratique pour nos sociétés, parce que finalement on dit bah le frelon asiatique fragilise les abeilles, alors que en tout cas de ma vision extérieure, j'ai l'impression que la pollution, les pesticides sont des dangers beaucoup plus réels, quoi.
C'est certain, c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est le problème que vont rencontrer les apiculteurs, c'est que ça va être une difficulté supplémentaire. On a déjà vécu ça avec l'arrivée du varroa, qui est un acarien originaire d'Asie et qui est arrivé chez nous dans la fin des années 80. Et au moment où il est arrivé, on a beaucoup d'apiculteurs qui ont abandonné leur pratique parce que c'était très difficile de gérer la présence du varroa dans les ruches. Mmh. Aujourd'hui, c'est un excellent exemple. On a appris à vivre avec, et puis il est présent, mais on arrive à le gérer.
Mmh. D'où la partie recherche de ce centre qui est déterminante, puisque on essaye de sauver avec les conditions qui s'installent pour nous, quoi.
Exactement. Donc ça, c'est un rôle qu'on souhaite vraiment pouvoir jouer. Il y a deux axes dans la recherche. Il y a de comprendre et de réussir à amener des solutions pour s'adapter. Et puis, il y a aussi le fait de réussir à s'occuper un petit peu de choses qui n'intéressent personne. Peut-être que le frelon asiatique, c'est un bon exemple, parce que oui, en Valais, on ne sera pas les seuls à être impactés, parce qu'on aura aussi un impact sur l'arboriculture et sur la viticulture. Mais voilà, souvent on est seul à se poser la question et à imaginer les solutions. Et surtout les solutions qu'on peut trouver, surtout si c'est des solutions douces, c'est des solutions qui ne représentent aucune valeur économique. Donc,
c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le statut de l'abeille a évolué. Hein, il accompagne l'humanité. D'ailleurs, il est arrivé avant. Hein, l'abeille est là au temps des dinosaures. Vous m'avez dit ça juste avant qu'on commence cet entretien. Mais voilà, en accompagnant l'humanité, d'abord, l'abeille, c'est celle qui produit le miel, vieux produit. Ensuite, on a compris qu'il pollinisait, donc qu'il aidait à l'agriculture et qu'elle était même essentielle à l'agriculture. Maintenant, c'est devenu une lanceuse d'alerte sur la biodiversité. Grâce aux abeilles, on peut se rendre compte de l'état de l'environnement.
Oui, bien sûr. Pour une raison très simple, c'est que l'abeille, elle a gardé son caractère primitif. C'est pas un animal domestique qu'on a réussi à modifier, à changer. Oui. Notre abeille domestique, c'est la même...
Elle
ne rapporte pas la baballe, ça c'est sûr. Par contre, elle ramène un tas d'informations parce que, elle vit dans nos écosystèmes. Et à ma connaissance, c'est le seul être vivant sur cette terre, j'exagère un peu, mais j'aime bien l'imaginer comme ça, qui arrive à vivre dans son environnement sans jamais rien casser, sans jamais rien détruire. Au contraire, elle fertilise, elle pollinise et elle permet le développement des plantes à fleurs. Autrement, elle va fabriquer la cire qui va servir à construire leur maison. Elle récolte le nectar des fleurs, elle ramène un peu de pollen. Elles arrivent même à récupérer une bonne partie de leurs déchets. Donc, c'est des exemples. Par contre, elles vont vivre en étroite relation avec cet écosystème. Et si l'écosystème, si notre environnement va mal, eh bien, tout de suite, on aura des indicateurs, on aura des indices dans les ruches qui vont nous permettre de comprendre que ça ne va pas.
Alors, c'est pour ça qu'il y a un projet Interreg, hein, interrégional suisse et italien, de cette vallée d'Entremont, de votre société d'apiculteurs avec la vallée d'Ost, qui consiste en des ruches connectées qui permettent justement d'analyser notre environnement des deux côtés des montagnes. C'est comme ça que ça marche ?
C'est comme ça que ça marche exactement, parce que en se penchant, en se posant un peu certaines questions, on s'est aperçu que on connaissait très peu de ce qui se passait avec nos abeilles dans les montagnes. Et l'idée est née d'en fait réussir à mettre en place un réseau permanent de ce qu'on a baptisé des ruchers sentinelles, parce que le terme exprime bien ce que ça veut dire. L'idée, c'est de réussir de part et d'autre de la frontière, en situation de montagne, à poser des ruchers sentinelles avec des ruches connectées, en effet, et puis qu'on puisse ramener du data, qu'on puisse ramener de l'information sur un serveur, qu'on puisse un peu structurer cette information, et puis que cette information puisse être à disposition des chercheurs.
Ça va calculer quoi ? Ça va, le nombre d'individus, leur activité, comment on connecte une ruche ? Simplement, pas aller dans tous les détails, mais...
La ruche connectée, c'est le premier défi qu'on a dans notre projet, parce que ça fait longtemps qu'on travaille en recherche avec des ruches connectées, surtout avec des balances connectées qui permettent d'amener des informations sur l'évolution du poids de la ruche. Mais nous, ce qu'on aimerait essayer de faire à terme, c'est de développer une ruche qui soit une ruche à but scientifique. Alors comme ça, on dit, ouais, bon, c'est pas compliqué, mais en fait, la grande différence, c'est que si on utilise une ruche du commerce qui est faite à but apicole, les développeurs, ils vont essayer de miniaturiser le système pour qu'il soit léger, qu'il soit pratique pour les apiculteurs, alors que nous, on va avoir un besoin qui est à l'opposé. On va devoir... Voilà, on va devoir transmettre énormément d'informations, donc il faut qu'on ait des systèmes qui soient plus lourds et qui soient
qui protègent le bâtard, quoi.
Et qui soient en même temps bien protégés, tout à fait.
Ouais, avec du solaire, j'imagine, pour faire marcher.
Eh bien, il faut de l'énergie, il faut, si vous me prêtez l'expression, des grands tuyaux pour pouvoir passer de l'information. Et on est toujours dans des situations où on n'a pas d'électricité, donc il faut qu'on n'a pas de réseau, donc il faut qu'on ait une certaine autonomie. Et puis en Valais, on a de la chance quand même, parce qu'on a des jeunes, on a des écoles d'ingénieurs qui sont capables de travailler sur ce genre de projet. Et puis, on va y arriver. On va y arriver parce que voilà, cette jeunesse est belle.
Elles traversent la frontière, les abeilles ? À part quand on ouvre la vitre, qu'on fait le col du Grand Saint-Bernard et puis que par hasard, il y a une abeille qui entre dans la voiture et qui ressort de l'autre côté. Naturellement, elles traversent ou c'est trop haut ?
Non, là, on a quand même des frontières naturelles qui empêchent le passage des abeilles. On pourrait les faire passer par le tunnel, mais c'est clair que ça, c'est une chose qu'on évite.
Ouais.
On évite pour des questions sanitaires, simplement, parce qu'on sait qu'en déplaçant trop les abeilles, on peut déplacer des maladies aussi. Donc, c'est clair que ce n'est pas dans le projet intérêt qu'on va déplacer les abeilles.
Bon, il y a un truc, je reviens sur un truc que vous avez dit tout à l'heure en disant, bon, finalement, ça... potentiellement ça intéresse personne parce que c'est pas économique. Moi j'avais vu passer une étude qui m'avait fasciné qui démontrait le rôle économique déterminant des abeilles dans l'économie. Alors, ça peut être du canton du Valais ou de la Suisse, etc., en disant, ben voilà, si les abeilles ne font pas leur boulot de pollinisation, voilà ce que ça coûterait. Et à la place de dire une théorie philosophique, ben, s'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas d'arbres, non, on met du pognon sur la table en disant, ben voilà, voilà ce que rapporte les abeilles à l'économie. C'est bien, ça.
C'est pas que c'est bien, c'est que c'est exact.
Oui,
donc,
oui mais enfin, ça frappe les esprits. J'imagine, quand on
absolument.
Va voir un Conseil d'État avec ça, ça frappe plus les esprits que les bons sentiments, quoi.
Oui, absolument. On a juste un problème, une grande difficulté, c'est que c'est pas du matériel. C'est pas concret. Donc, effectivement, l'apiculteur ou les ruches, hein, les abeilles, vont avoir deux fonctions dans notre environnement. C'est de rapporter un petit peu de miel et les produits de la ruche, ce qui est une toute petite part économique parce que c'est beaucoup de travail pour peu de revenus. Et puis on a ce qu'on appelle le rôle écosystémique. Le terme l'exprime bien, ça veut simplement dire que les abeilles vont, par la pollinisation principalement, rendre un tas de services en agriculture.
Quand le technosolutionniste vous dit pas de problème, on a maintenant des drones qui ressemblent à des abeilles qui vont faire le job, qu'est-ce que vous lui répondez après l'avoir mordu, bien sûr?
Mais pourquoi? Alors, la réponse, elle est très vite trouvée. Pourquoi remplacer la nature? Pourquoi vouloir remplacer avec de la technique quelque chose qui est parfaitement fait par la nature? Les abeilles, c'est, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 150 millions d'années d'évolution. Pourquoi les remplacer? Nous, Homo sapiens, c'est 100 000 ans d'évolution. Je pense qu'elles sont bien plus capables que nous de s'adapter à notre environnement et puis de remplir pleinement leur rôle.
Bon, en tout cas, c'est tout le sens de ce centre de compétences en apiculture de Volège où nous nous trouvons, qui célèbre donc une année d'existence. On est passé un peu rapidement hein, sur les dicastères tout à l'heure. On va y revenir. Il y a l'apiculture, évidemment. Ça permet aux apicultrices de la région de venir faire leur miel ici. Faire leur miel, cultiver leur miel en somme, hein, puisqu'on récolte extraire, voilà, dans des conditions d'hygiène qui exigées aujourd'hui par la vente de produits alimentaires, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Donc on a mis en place, dans le cadre du PDR, on a un petit peu cette consigne qui est donnée dans ces plans de développement régional qui dit qu'il faut qu'on réponde pas aux besoins actuels, mais qu'on ait une projection sur les besoins du futur. Et en tout cas dans la région, on observe que, mais je pense qu'on peut généraliser au Valais, on s'aperçoit qu'en fait on a de plus en plus d'apiculteurs qui ont peu de ruches. Ce que moi j'aime appeler l'apiculture familiale, qui me plaît beaucoup parce que j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup dans le sens où on revient peut-être à quelque chose qui était une pratique ancienne.
Chaque point d'apiculture est aussi un point de prise de conscience, quoi. C'est important.
C'est hyper important. Et de faire rentrer des ruches dans une famille, c'est aussi faire rentrer la santé. Et Dieu sait si aujourd'hui on doit trouver des solutions en termes de santé pour que tout ça nous coûte un peu moins cher. Mais je crois que tous les apiculteurs diront la même chose que moi, c'est que depuis qu'on a des ruches dans la famille, on a un tas de petits bobos qui ont disparu.
Merci à vous, Jean-Baptiste Moulin.
Mais merci à vous aussi.